With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Le rendez-vous jeu est de retour, on va dire au revoir à Stadia, on va dire bonjour au nouveau jeu de CD Projekt, et surtout, on va parler très longuement d'Overwatch 2, et un petit peu, si on a le temps, de Return to Monkey Island, genre 3 minutes quoi, un truc rapide. Allez, on se lance. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, l'émission 262. On est en octobre 2022 et avant tout, un grand merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages inquiets en constatant qu'il n'y avait pas l'épisode la semaine dernière, qui sont allés voir sur Twitter. Mais que se passe-t-il? Patrick n'enregistre pas un épisode? C'est fou, il doit vraiment y avoir un gros problème. Effectivement, j'étais très malade et donc j'ai carrément même pas pu enregistrer, même sans live. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Alors, je dis un petit peu, je ne suis pas complètement en forme, même si l'énergie du showmanship me permet quand même d'avoir l'illusion, de projeter l'illusion de la forme. Si jamais je mets à tousser ou si je me mute en plein milieu de l'émission, ça sera sans doute parce que les restes de ma crève carabinée sont encore en train de m'affecter. Mais ça ne va pas nous empêcher d'avoir un programme absolument incroyable. On va parler de ces petites news que j'évoquais, Stadia qui ferme. Alors là, c'était vraiment le WTF pour moi, en tout cas, même si on commençait à le sentir venir, c'est des projets qui font encore des jeux. Ces deux petites news, on va les évacuer assez vite parce qu'après, on doit parler d'Overwatch 2. On doit parler d'Overwatch 2 et pour nous parler d'Overwatch 2, j'ai le très grand plaisir de recevoir pour la première fois l'un de mes créateurs de contenu préférés qui fait beaucoup de choses sur Overwatch, qui sort du désert depuis quelques semaines. Il avait soif. On lui dit bonjour les amis, bonjour les Kai, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Comment ça va, Pocheka? Emric,
ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation et je suis très content, oui, de pouvoir enfin parler d'Overwatch 2 de façon, on va dire, positive, malgré les petits problèmes de serveur qu'on abordera peut-être tout à l'heure
tout
sur
à
le
fait,
lancement.
Ouais. Tout à fait, je suis content que tu sois avec nous. Ça fait longtemps qu'on attend de pouvoir parler de ça, donc on va s'en donner à cœur joie tout à l'heure et on réservera peut-être un petit peu de temps pour que JK, qui est là, nous parle un petit peu du jeu de sa décennie quand même.
Alors on va pas non plus survendre le truc, hein. On va vous parler.
Oula, on t'entend pas bien, je sais pas ce qui se passe avec ton micro.
Allô? Ouais. Merde, pourtant mon micro, c'est bon là?
Moi, je vais monter le son. Allô, vas-y, continue.
Ouais, peut-être, c'est bizarre, pourtant ça allait tout à l'heure. Allô, est-ce qu'on m'entend bien? Bonjour.
Bah non, ça va et ça vient, c'est étrange.
Eh bien, je sais pas.
Continue, ça va s'arranger tout seul.
Je sais bien, avant de lancer l'enregistrement. Oui, donc je disais que on me force. Je suis contraint et forcé de parler de Return to Monkey Island parce que j'avais même pas prévu d'en parler dans le conducteur parce que je me suis dit il est sorti il y a 3 semaines, mais avec grand plaisir évidemment parce que là je suis en train de le refaire donc voilà, et on va parler d'autres jeux aussi, hein, et on va parler de CD Projekt, et ça j'ai envie d'en parler aussi.
Ah bah très bien, écoute, voilà, moi je pourrais dire quelques mots sur Stadia, et toi quelques mots sur CD Projekt, ça va être parfait. Avant tout quand même, merci aux Patriotes, parce que... Ouais, ça commence. Même si moi, j'étais pas au rendez-vous, eh bien les Patriotes étaient là, ils sont venus rejoindre la grande équipe, la grande famille, des gens qui soutiennent financièrement l'émission. Merci François Ribollet, Régis Ambalek, Christophe de Madrid, je me demande si c'est son vrai nom de Madrid peut-être, Clément Châtelet, Christophe Roux et le producteur de cet épisode, Steph Sinalco. Merci à vous tous d'être là et de permettre à cette émission d'exister. Je vous envoie quelques petits bravos quand même. Merci du fond du cœur. Si vous voulez vous aussi soutenir l'émission, c'est sur patreon.com/rdvjeux. C'est vous les vrais héros. On va parler d'Overwatch, mais en fait, c'est vous qui faites vraiment exister cette émission. Eh bien écoutez, allez, on se lance tout de suite et on va évacuer ces news rapidement parce qu'il y a des choses plus importantes. Mais tout de même, bye bye Stadia. Google a annoncé, après une longue agonie, que Stadia allait fermer le 18 janvier prochain. C'est à la fois une surprise et pas une surprise. C'est pas une surprise parce que le nombre de projets que Google a fermés est quand même assez pharaonique. Il y a un site, pour ceux qui ne savent pas, qui s'appelle Killed by Google, qui a des centaines de projets qu'ils ont abandonnés. Et au lancement de Stadia, il y a quelques années, on leur avait dit justement, on leur avait fait remarquer, vous lancez beaucoup de projets que vous arrêtez, comment est-ce qu'on peut savoir que sur Stadia, vous êtes sérieux ? Et par la voix de Phil Harrison, le maudit Phil Harrison, ils avaient dit non mais vous inquiétez pas, on ne peut pas vous le prouver, mais vous devrez nous faire confiance et voir, constater à quel point nous sommes committed to the future of Stadia and video games. Et voilà, la fête s'arrête. Alors ils vont rembourser tout le monde, rembourser pour le matériel et pour les achats de jeux. Mais si on veut faire un tout petit bilan, il y aurait deux ou trois choses à dire. C'est que, comme on l'avait dit au lancement même du service, la technique n'était pas le problème. Le problème, c'était vraiment le business model, puisqu'il demandait d'acheter les jeux. Il n'y avait pas vraiment de système d'abonnement, même s'il y avait l'abonnement Stadia Pro qui accumulait les jeux au fil des mois auxquels on avait accès quand on était abonné. Ben, au lancement, il n'y en avait pas, parce que c'était deux jeux par mois qui venaient s'ajouter. Donc au lancement, il y en avait deux ou trois. Et du coup, ben, l'offre n'était vraiment pas convaincante, parce que acheter des jeux qui ne sont disponibles qu'en streaming et sur un service de Google auquel on ne fait pas confiance et il se trouve avec raison, et bah, ça n'a pas convaincu les gens. Et du coup, bah voilà, Stadia fini, c'était une sorte de cercle vicieux. Et le plus frustrant, en fait, c'est que, comme je le disais, techniquement, c'était l'un des meilleurs services de streaming. Il était vraiment convaincant et il n'a pas réussi pour des questions commerciales et de stagnation, peut-être. Les développeurs n'ont pas réussi à pousser le service à terme. C'est intéressant parce que je mentionnais Phil Harrison. Phil Harrison, c'est vraiment la malédiction du jeu vidéo. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, c'est lui qui était... je ne vais pas dire de bêtises, mais il était derrière la Xbox... La PS3, c'est sûr. Et c'était la Xbox One qui l'a aidé à lancer ou la... Je crois que c'était la Xbox One. On va vérifier. Tu te souviens pas, toi ?
J'ai un trou de mémoire. Mais je suis en train de réfléchir, mais justement...
En fait, il a fait partie... il a fait
vice-président de Microsoft...
Voilà, en mars 2012, il rejoint l'équipe de Microsoft et c'était au moment du lancement de la Xbox One, du coup. Il a aussi été chez Sony au moment du lancement de la PlayStation 3 et là, il complète le trifecta avec Stadia. Si vous voulez que votre produit jeu vidéo ne réussisse pas, mettez Phil Harrison à la tête. Je pense que c'est une...
Et alors là, je t'allais dire, en plus, c'est l'exemple pire, parce que bon, la Xbox One et la PS3, ça a fini par marcher, tu vois, mais ça a pris du temps. Mais là, oui, je pense qu'ils n'ont pas laissé le temps, enfin, Google n'a pas laissé suffisamment de temps. Enfin, non, je dis ça, mais en vrai, ils ont laissé 3 ans, je pense que ça suffit largement, tu vois, ça fait quoi, ça en vrai, c'était il y a 3 ans quasiment maintenant.
Mm-hmm. Exactement. Ce qui est fou, c'est que tu parlais des clients qui allaient être remboursés, des achats qu'ils avaient faits, etc., par rapport à Stadia. Moi, ce que j'ai vu passer sur Twitter, c'est qu'il y a carrément des studios qui ont prévu de sortir un jeu et un portage Stadia et qui l'ont appris comme ça et qui se disent « Mais est-ce que nous, on va être payés, en fait ?» Parce que certes, ça ne va pas sortir, mais Google, ils sont bien gentils. On a quand même travaillé pour sortir sur Stadia et on l'apprend de nulle part. Donc ça, c'est quand même assez grave aussi pour ces petits studios, quoi.
Ah, mais complètement. C'est tous les studios qui travaillaient avec Google sur des jeux sur la plateforme Stadia ont appris que la plateforme fermait dans quelques mois et que le store était fermé avec l'annonce publique. Donc, alors je comprends qu'ils ne l'annoncent pas aux partenaires parce qu'ils ne veulent pas que ça leak, mais enfin, quand même, du coup, les partenaires qui bossent avec
eux... Il faut prévoir un mot public instantanément pour dire « vous en faites pas », quoi, parce que là, c'est...
C'est assez dramatique. Et un autre élément à noter aussi, c'est que les manettes Stadia, pour ceux comme moi qui ont acheté le pack fondateur, alors on devrait être remboursé, mais surtout les manettes, elles sont Bluetooth, mais elles sont bridées pour ne fonctionner qu'avec Stadia. Donc il y a une grande question sur la sincérité de Google dans le domaine de l'écologie. Est-ce qu'ils vont faire un patch, faire une update aux manettes pour qu'on puisse utiliser ces manettes avec n'importe quel service, ou est-ce qu'ils vont juste l'abandonner et ne pas patcher les manettes, et de telle sorte à ce que ce soit simplement des presse-papiers, quoi. Elles servent absolument à rien quand Stadia fermera. Donc,
après, elle fonctionne en filaire ou pas, la manette ? Je crois qu'elle fonctionne en filaire.
Je suis même pas sûr. Peut-être. C'est peut-être le cas.
Après, c'est... Voilà, c'est pas terrible non plus, mais moi ça permet quand même de l'utiliser malgré tout. Mais moi sincèrement, je pense qu'ils vont rien faire du tout, parce que ils vont vraiment enterrer, mettre ça sous le tapis, l'enterrer, passer à autre chose. Ouais. Et ce serait intéressant de savoir aussi si ça clôt les ambitions de Google sur le jeu vidéo, ou si c'est un essai raté et ils reviendront avec autre chose plus tard. Parce que mine de rien, souvenez-vous quand ils ont lancé le service, c'était ils avaient une sorte de prétention sur Stadia qui était monstrueuse. Ouais. Leur discours c'était les consoles c'est fini, l'avenir c'est le cloud gaming, c'est comme Stadia le montre. Il voulait vraiment montrer que la prochaine génération de consoles, bah, ce serait du cloud gaming, quoi. Et c'est évidemment pas le cas, et ce sera pas le cas tout de suite. Est-ce que ça le sera un jour, j'en sais rien. Moi je crois toujours en l'intérêt du cloud gaming, mais pas comme unique Parallèle. Moyen de. En tout cas, voilà. En tout cas, dans un futur proche. Et il y a, je crois que c'était Julien Cadou sur Twitter qui disait un truc très juste. Du coup, je le reprends parce que j'aurais pas mieux dit. C'est vrai que le problème, c'est que c'est le terme cloud gaming et ce côté, on vend un truc à des utilisateurs qui savent pas vraiment ce que c'est. Eux, ils s'en fichent en fait de jouer en cloud gaming, en streaming ou en local. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir un service sexy en fait. Et évidemment, ils n'ont jamais réussi à proposer un service suffisamment attractif pour le grand public. Contrairement, par exemple, parce que Microsoft, aujourd'hui, il n'axe pas leur communication autour du cloud gaming, il axe autour du Game Pass. Et au sein du Game Pass, vous avez l'option de jouer en streaming à vos jeux. Mais ça, ce n'est pas un truc qu'ils mettent en avant plus que ça.
Ouais. Moi, je suis convaincu que Google aurait pu se créer une niche pour pouvoir croître s'ils avaient poussé un service par abonnement. Tu prends ton service par abonnement et tu as donc accès à différents jeux. Et du coup, même l'idée que Google puisse le fermer un jour, bon, bah, c'est pas la fin du monde. Si ça disparaît, ça disparaît. Ton abonnement s'arrête et voilà. Mais c'est pas du tout la voie qu'ils ont choisie. On me dit dans la chatroom qu'il n'y a pas de possibilité d'utiliser la manette en filaire.
Ah bah voilà. En plus, donc, si c'est vraiment le cas, là, c'est vraiment, ça sert vraiment à rien, quoi.
Au-delà de ça, moi, je crois que ça montre encore une fois la leçon que j'en retiens, c'est à quel point, un truc que je dis depuis un moment, à quel point les géants de la tech pensent qu'ils comprennent le jeu vidéo et à quel point ce n'est pas le cas. On a eu de nombreux exemples, enfin le jeu vidéo core, hein, console PC, on a eu de nombreux exemples. Le précédent, c'était Amazon qui n'a pas réussi à faire un seul jeu. Bon, s'il y a New World quand même, mais même celui-là, je ne suis pas convaincu que ça soutienne toutes les ambitions d'Amazon dans le domaine. Et là, c'est encore un exemple de ça. Donc. Bon.
Et n'oublions pas qu'Amazon a Luna aussi, il y a un service de cloud gaming qui, pour le moment, je crois, est dispo qu'aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises, ouais. Qui n'est pas non plus... Et c'est vrai que le seul qui a réussi finalement... Ouais, il marche, je crois qu'il marche par abonnement. Oui. Bah, aujourd'hui, quand même, Amazon, c'est Twitch. Et Twitch, bon, même ouais. Si c'est pas eux qui l'ont créé, parce qu'ils l'ont racheté, mais là-dessus, ils ont quand même une sorte de pied énorme dans le jeu vidéo avec Twitch, quoi.
Ouais, mais Google avait YouTube, hein, et ils n'en ont jamais rien
oui,
fait.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais cette histoire de cloud gaming, ça me fait quand même beaucoup penser au parallèle qu'on pourrait faire avec aujourd'hui Meta, etc. C'est vraiment quelque chose où on se dit, on nous le vend tellement, c'est le futur, mais est-ce que le marché est prêt, en fait?
Tu parles du métavers 4 ans, quoi. Ou de...
Oui, du métavers, oui. Enfin, ouais. Oui, pardon, du métavers. Mais c'est à peu près le même parallèle, en fait. On nous vend des choses comme quoi c'est l'avenir et le futur, mais pour l'instant, est-ce qu'on est vraiment les clients? Non, pour le cloud gaming, il n'y en avait pas. Donc, c'est vrai que... je ne sais pas, on verra.
C'est difficile de trouver les clients du cloud gaming, mais je pense que la technologie est saine et fonctionne avec le cloud gaming. Ouais. Et elle offre certaines possibilités. Donc, je crois qu'il... Si tu gères les choses de manière assez maligne, tu pourrais te créer une niche. Mais bon, clairement, Stadia, ils n'ont pas à gérer les choses de manière très maligne. L'autre sujet que je voulais traiter, et d'ailleurs je fais une petite pause, on a sauté la news la plus importante de cette émission, on a oublié de dire que JK avait quitté l'écurie JVcom. Je voulais le dire en présentation, mais ça c'est quand même un événement momentous event.
Je sais pas, peut-être. Je l'avais annoncé il y a quelques. Je l'avais annoncé au début du mois de septembre que je partais de la rédac à la fin du mois de. Bref, j'ai quitté jeuxvideo.com la semaine dernière, le 30 septembre. Et oui, ça y est, c'est la fin d'une aventure chez JV qui a été extrêmement riche et très variée. Et j'ai appris énormément de choses Et voilà, et je pars pour une très bonne raison, c'est que je vais travailler ailleurs et ce métier, et ce sera pas un métier de journaliste. Ben, ce sera tout ce que je peux dire pour le moment, c'est que c'est pas un métier de journaliste. D'accord. Et justement, je tente une autre aventure qui m'excite énormément. Donc j'en parlerai probablement la semaine prochaine quand j'aurai commencé mon nouveau boulot. Voilà.
Juste, tiens, je te pose une question.
Restez connectés, comme on dit.
Une question rapide, du coup. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui quittent le métier de journaliste par lassitude, par fatigue, comme on en a vu beaucoup ces derniers mois, d'un métier qui est difficile, on te demande beaucoup et où la progression est compliquée ou est-ce que c'est autre chose, tu as juste envie de faire autre chose
Je pense que c'est, malgré tout, il y a un peu de ça. Je vais pas te mentir, c'est un métier qui devient quand même... C'est un métier qui est de plus en plus compliqué à faire tel que moi je l'ai conçu en fait à la base quand j'ai commencé il y a 15 ans. Ça c'est vrai, c'est un métier qui a énormément changé en tout cas sur le web et où les modèles économiques aujourd'hui sont de plus en plus restreints et la presse papier on sait malheureusement dans quel état elle est et que c'est extrêmement complexe. Donc en fait quand je vois autour de moi les rachats, les gens qui partent, les gens qui sont en galère et tout, à titre personnel, j'ai encore du mal à voir un avenir lointain en fait dans ce métier. Mmh. À part stagner en fait là où je suis et ça m'allait très bien. Et c'est un métier que j'ai adoré faire, tu vois, et que j'adore toujours. Et je dis pas que je le ferai plus jamais, tu vois. Je dis pas que c'est terminé complètement. J'en sais rien, mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Après, je pars aussi parce que voilà, mon nouveau job il a l'air d'être cool. Et j'ai très hâte de le commencer. Donc il y aurait pas eu cette opportunité là, je serais resté encore quelques temps en plus. Mais je pense qu'à terme, j'aurais fini peut-être par me lasser, et voilà, 15 ans dans ce métier, déjà, c'est pas mal. On verra ce que la suite nous réserve.
Très bien. Donc, l'autre news qu'on voulait évoquer, c'était celle des annonces de CD Projekt Red, le développeur de Witcher Cyberpunk, qui a annoncé une tripotée de jeux, et je suspecte que c'était pour rassurer les investisseurs et le marché et le public. Mmh. Au moment où ils annoncent le départ, ils l'ont fait genre le lendemain, ils ont annoncé le départ de l'un de leurs fondateurs, que je n'écorche pas trop son nom, Marcin Iwiński, qui du coup maintenant n'est plus le président. Mais ce qu'ils ont annoncé, c'est d'une part une suite à Cyberpunk 2077, une vraie suite, genre un jeu qui est en cours de développement, un jeu complet. Ils ont aussi annoncé 4 jeux Witcher, en plus de celui qui était déjà en cours de développement, qu'on connaissait. Donc, c'est une nouvelle trilogie Witcher qui se lance, avec en plus 2 jeux en parallèle, développés par un studio second party, enfin, qu'ils ont acquis, et un third party, qui sont dans l'univers Witcher. Donc, ça fait en tout, il y a 5 jeux Witcher en développement, une trilogie classique comme la précédente, et 2 jeux parallèles, un petit peu comme ce qu'a fait Riot, j'ai l'impression, avec ses propriétés, avec les jeux qui sont sortis l'année dernière. Et donc, la suite de Cyberpunk, et une nouvelle IP, dont le nom de code est Adar, qu'ils développent eux-mêmes en interne, comme la trilogie Witcher. Là, on en a pour quoi, 10-15 ans de jeux, c'est presque...
Oh là, oui, largement 15 ans même, je pense, hein, parce qu'un jeu Witcher ou un jeu... Cyberpunk, même s'ils ont les moteurs, etc., c'est facilement 3-4 ans par
oui, au moins.
Au moins. Moi qui veuille en sortir un tous les 2 ans, par exemple, mais ouais, ça va être compliqué. T'as dit que t'avais des choses à dire, du coup, sur ce sujet
Des choses à dire, je sais pas, juste que c'est vrai que c'est impressionnant d'avoir cette espèce de pluie d'annonces. Alors, c'est vraiment des effets d'annonce, parce qu'on a strictement aucune image, bien sûr, aucune info concrète sur les jeux, on a juste des noms, des projets. C'est vraiment une sorte de roadmap qu'ils nous ont donné, et ça, je trouve que c'est un travail de transparence qui est finalement assez rare, parce que se risquer à dire, peut-être dans 6-7 ans, il y aura la suite de Cyberpunk 2077, ouais, mais c'est super, mais n'oublions pas qu'à la base, Cyberpunk 2077, il a été annoncé en 2012 quand même initialement, et il est sorti 10 ans après, presque 10 ans après, donc voilà, mais je trouve ça cool, et ça va aussi dans cette espèce de réhabilitation qu'il y a autour de Cyberpunk depuis quelques temps, qui est complètement justifié. Bon, il y a le succès de Edge Runner sur Netflix, je pense, qui aide beaucoup, et le fait que le jeu a été...
Ils ont eu, juste pour préciser ce que tu dis sur Cyberpunk, à la sortie de la série sur Netflix Edge Runner, ils ont eu leur pic de joueurs simultanés sur Cyberpunk, il y a une ou deux semaines, ils sont montés à 1 million de joueurs quotidiens et 100 000 joueurs simultanés. Ils sont arrivés à 20 millions d'exemplaires vendus, ce qui est... Bon, ils en avaient vendu l'essentiel au lancement, mais il y a un renouveau d'intérêt pour Cyberpunk, on va dire, avec un jeu qui aujourd'hui est dans un état plutôt acceptable.
C'est ça, c'est que on aura beau dire tout ce qu'on veut sur le lancement de Cyberpunk qui a été catastrophique. Le fond était là, le jeu était exceptionnel. Moi j'ai adoré ce jeu malgré tous les défauts qu'il avait à l'époque, et ils l'ont maintenu. Ils ont bossé pour le rendre vraiment beaucoup plus propre et agréable à jouer, etc. Ils ont rajouté du contenu, ils vont en rajouter là, parce qu'en plus de la suite, ils ont annoncé donc un DLC solo qui va sortir dans probablement moins longtemps. Donc il y a vraiment un boulot de réhabilitation, et du coup ils se sont dit bon allez, on a retrouvé une espèce de feu sacré, et on a réussi à, tant bien que mal, à redorer notre image, parce que l'image de CD Projekt au moment du lancement c'était quand même compliqué quoi. Du coup on y va, on communique et on va faire un peu, effectivement très clairement on va rassurer les investisseurs, mais aussi on va aussi essayer de faire rêver un peu les joueurs qui vont se dire là dans les 10 prochaines années je vais jouer à 3 jeux The Witcher, je vais jouer à la suite de Cyberpunk et en plus une nouvelle licence. Donc c'est cool. Après maintenant il faut que les promesses tiennent, surtout que les développements se passent bien, et surtout qu'on espère qu'il n'y aura pas des... Disons, tout ce qu'on a entendu sur CD Projekt ces dernières années en termes de charge de travail, de crunch et tout ça, c'est pas très reluisant. Je ne sais pas si les choses ont changé ou vont changer, mais
le départ du fond du CEO est peut-être pas totalement étranger à...
Voilà, c'est ça aussi. Donc ça, ce sera un truc à surveiller. Alors, voilà.
Je voulais juste dire, est-ce que c'est pas trop beau? J'aurais largement préféré déjà avoir juste une annonce concernant un Witcher et développé. Là, si on dit un Witcher est développé, on met juste une image, etc. sur Twitter, c'est absolument la folie pour tout le monde en termes de hype. Il y a un nouveau Witcher qui va arriver, nouvelle génération. Cyberpunk annoncé un 2, alors que le 1... Bon, moi, je suis fan absolu de Cyberpunk. Est-ce que c'est une bonne chose d'annoncer le 2 alors qu'on n'a toujours pas le multi qui nous avait été promis sur le 1, qu'il y a une extension qui arrive? Je ne sais pas. C'est trop loin, trop loin pour moi.
Moi, je suis un petit peu, je suis un peu entre les deux, mais peut-être du côté de Poche. C'est clairement une opération de communication, une opération marketing. C'est pour dire, regardez, on est là, on sera là pour longtemps. Les joueurs, vous pouvez vous hyper. Mais c'est tellement, enfin, il y a combien de pourcentage de chances que ça se passe effectivement comme ça, comme ils le disent, et que tous ces projets voient le jour? Enfin, on peut pas savoir. C'est pas, on n'est pas dans une boîte comme Marvel qui a huilé ses trucs, et quand ils disent, on va sortir 10 films dans les 5 prochaines années, tu sais que ça va se faire.
Ils ont les moyens de le faire, quoi.
C'est ça. Peut-être que ça va changer, peut-être qu'ils vont réussir, mais ils sont aussi passés sur Unreal Engine 5, donc ils développent plus leur moteur interne, ce qui n'est peut-être pas forcément une mauvaise idée.
Le prochain, le prochain The Witcher, qui avait déjà été plus ou moins annoncé, sera sur Unreal Engine 5, ça ils l'ont confirmé. J'imagine que ce sera pas la même chose pour Cyberpunk.
Tout à fait, ouais. Bon, écoutez, en tout cas, même si je suis un petit peu dubitatif, j'avoue que me dire, ils bossent sur plein de jeux et il y a des trucs qui vont arriver, des belles choses qui vont nous faire, au final, j'en ressors avec une image un petit peu plus positive de CD Projekt que le fait qu'ils soient restés sur ce cyberpunk un petit peu décevant qui était tombé à plat. Le fait que les joueurs le redécouvrent, qu'il y ait une popularité, qu'il soit bien, c'est le bon moment pour faire ça. Je pense que c'est pas mal calculé au niveau com. Et moi, ça fonctionne un petit peu sur moi quand même. Même si je suis dubitatif, CD Projekt, je me dis, OK, ils ont de l'ambition, ils font des trucs intéressants. Allez, let's go, let's go.
Ouais. Clairement, moi, ce que je veux rajouter pour finir, c'est que je pense que c'est vraiment le meilleur moment, en fait, pour découvrir Cyberpunk 2077. Si jusqu'à présent vous avez été un peu refroidi par tout ce que vous avez entendu sur le jeu, là, le jeu, il est propre, il est vraiment, c'est un super jeu. Enfin, pour moi, c'est la plus belle ville, la ville la plus incroyable que j'ai vue dans un jeu vidéo. En termes de, pas forcément le point noir le plus beau, parce que c'est pas ça le souci, c'est que Night City, c'est vraiment un truc que moi, j'avais jamais vu dans un jeu. C'est le projet, donc c'est bien écrit. Il y a des personnages qui sont mortels, des quêtes qui sont mortelles. Pour peu que tu joues un peu en difficulté, un tout petit peu élevé, t'as vraiment l'obligation de varier tes approches et de jouer de plein de façons différentes. Enfin, c'est un super jeu, vraiment, il y a aucun doute là-dessus, quoi.
Pour moi, ce sera vraiment la justesse d'écriture de certains personnages qui sont assez fous, quoi. C'est littéralement un livre. Et t'en sors. Alors, moi, on va pas spoiler, mais moi, j'en suis sorti en mode. J'étais en stream, j'étais en mode. C'est fini, quoi. Et t'as un peu d'émotion par rapport à tout ce que t'as vécu dans l'histoire. Et c'est ça qui est incroyable, que t'as sur très très peu de jeux et qui rend Cyberpunk incroyable.
La conclusion du coup de ce sujet, c'est peut-être vous avez sans doute acheté Cyberpunk comme
20
c'est le moment de le réinstaller. En plus, depuis 2 ans, vous avez peut-être changé votre PC et vous avez une machine qui peut le faire tourner. Donc, encore plus, ou alors acheter une PS5, une Xbox
Series. Ou dépenser 2000 euros pour les 4000.
Pour les séries 4. Au niveau technique, ils ont annoncé des patchs. Ils ont annoncé des patchs GeForce, enfin encore du ray tracing en plus. Alors je crois qu'il faut avoir une RTX 4000, donc effectivement, il va falloir investir un peu. Mais...
Ouais. Ouais. Bon, écoutez, CD Projekt nous a bien fait passer le message. On est encore là, on est dans la place et ils ne sont pas prêts de partir. Bon, c'est fini toutes ces conneries. Hein. Maintenant, on a des trucs sérieux, des trucs intéressants. Et la première chose à dire, c'est n'oubliez pas le Patreon. Patreon.com/RDVjeux, si vous voulez soutenir l'émission, vous savez ce que vous devez faire, c'est aller sur Patreon.com/RDVjeux. Vous écoutez l'émission depuis quoi ? 6 mois ? 1 an ? 1 an et demi ? Vous passez de bons moments, on vous informe, on vous donne des angles peut-être intéressants sur les news que vous avez entendues ailleurs. Eh bien, c'est du travail et c'est beaucoup d'efforts. Et si vous voulez soutenir ce travail ou simplement nous envoyer un petit peu de sous pour qu'on paye des pâtes et des couches aux enfants, vous pouvez le faire sur patreon.com/rdvjeux. Vous envoyez une somme fixe par épisode. À la fin du mois, vous êtes facturé et... Tac, c'est fini, c'est super simple. Patreon.com/RDVjeux, merci à tous ceux et toutes celles qui le font déjà. On vous fait de gros bisous et si vous écoutez l'émission depuis un moment, peut-être que c'est le moment d'aller regarder. Vous pouvez le faire depuis votre téléphone ou quand vous rentrez chez vous, vous savez, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling et là vous dites oh, j'ai oublié encore d'aller voir patreon.com/RDVjeux. Donc, cling, Patrick, patreon.com/RDVjeux. Merci à tous et à toutes. Et dans l'after show, on va parler de Wrath of the Lich King classique avec quelques auditeurs qui sont à fond sur le jeu et bien sûr encore un petit peu de Overwatch 2 et de toxicité.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
We're all looking to make more sustainable choices, but making your own shoes out of natural materials could pose a few challenges. At the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the sciencey stuff like research and testing to create shoes from natural materials. Like leather made from plants, eucalyptus tree fiber, and sugarcane. It's not rocket science, it's shoe science. Allbirds is making shoes better than natural. They're super natural. Find your perfect pair at Allbirds.com today. That's Allbirds.com.
Et maintenant, les choses sérieuses. Bon, pas alors. Cette musique n'est pas forcément très sérieuse. Mais c'est les jeux auxquels on joue en ce moment avec Overwatch 2. Et on va parler du jeu. On va vous expliquer de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est. Peut-être que vous n'avez pas tout suivi. Avant ça, je voudrais me faire l'écho d'un truc que j'ai dit sur Twitter il y a quelques jours, la veille du lancement du jeu. On est dans une situation un petit peu bizarre dans l'émission parce que vous savez qu'au moment du scandale d'Activision Blizzard à l'été 2021, on était assez remontés, surtout que moi j'ai travaillé pour Blizzard pendant quelques années. Je me suis senti à la fois trahi et coupable de ce qu'on avait vu. Et on en avait beaucoup parlé. Et puis le sentiment qu'on avait à ce moment, c'était un petit peu, oui, mais bon, bah voilà, ils vont faire l'autruche, ils vont faire la tortue, et bah, ça va se passer. Alors, Bobby Kotick est toujours en place. Vous vous souvenez, hein, je ne vais pas tout refaire toute l'histoire, mais un scandale de problèmes culturels dans l'entreprise qui poussait à du harcèlement, du sexisme. L'un des pires exemples qu'on ait vu dans cette industrie, dont pourtant il y a beaucoup d'exemples de ce genre de défauts. Et... Bah, malgré notre frustration, Kotick est toujours en place et il y a eu aussi l'annonce du rachat par Microsoft qui suit toujours son cours, qui a fait que bah, on s'est dit oui, on sait que Kotick va partir quand le rachat sera acté, s'il est acté, et donc bah, on est un petit peu en attente. Mais du coup, on va parler d'un jeu qui est développé par cette société pour laquelle on a quand même des sentiments assez mixés. En même temps, c'est une société qui crée des jeux qu'on aime beaucoup et des développeurs, la majorité sont des gens qui bossent dur pour faire des jeux qu'on aime. Donc, bon, la seule chose que je peux faire, c'est ce que je disais déjà depuis quelques temps, bah, c'est de rappeler que ces problèmes culturels ne sont pas de culture d'entreprise, on n'a pas de confirmation qu'ils sont réglés. On pourrait, hein, il pourrait y avoir des rapports de journalistes qui disent bah oui, les choses vont mieux, ou un indépendant qui pourrait, une organisation indépendante qui pourrait auditer la société. On pourrait avoir des retours de développeurs eux-mêmes au sein de la société qui disent bah oui, ça va mieux, les choses progressent dans le bon sens. Et on n'a pas tout ça. Donc, on est dans cette situation un petit peu bizarre où bah, on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est continuer à dire que c'est des choses qui, en tout cas moi, ne me conviennent pas évidemment, et puis essayer de pousser les normes de notre société pour dire que dans cette industrie où c'est un problème, bah, ce n'est pas acceptable, et puis pousser les gens responsables à faire ce qu'il faut. Voilà, on ne peut pas faire grand-chose de plus, et je voulais le mentionner pour ne pas juste faire la fête à Overwatch sans le dire. Parce que quand même...
Tu fais bien.
Le jeu... Merci. Parce que quand même, le jeu, il est quand même très très cool. Et donc, on va dire beaucoup de bien. Peut-être un peu de mal aussi, mais beaucoup oui. de bien du jeu. On va parler peut-être du lancement et de l'expérience dans une seconde. En gros, je résume, hein, mais le lancement a été compliqué. Il y a eu beaucoup de problèmes de connexion. Il y en a encore eu aujourd'hui. Ça fait deux jours qu'il est lancé. Il y a encore des problèmes de connexion le soir, quand il y a le rush. Alors, Blizzard dit qu'il y a des soucis de DDoS... quand même une excuse un petit peu. Je pense pas qu'il m'en tirait, mais c'est quand même alors, toujours chez Blizzard que ça tombe. Mais...
Pour ajouter par rapport à ça, il n'y a pas que ça. Hein. Ils ont précisé, il y a plusieurs systèmes qui ont été mis en place. Un système par exemple de... Alors il y a du DDoS, hein, ça on est d'accord, il y a du DDoS, mais il y a un système par exemple de SMS qui est obligatoire de connecter un téléphone pour pouvoir jouer. Ils l'ont annulé justement dans la nuit, ils en ont parlé, parce que bah, c'est pas possible, ça marche pas, ça envoie pas les messages, etc. Donc ça, pour tous les anciens joueurs, ça a été annulé. Il y a des problèmes aussi
de cross-platform. C'est pour les joueurs qui avaient déjà un compte Battle.net jusqu'à une certaine date, en juin, je crois. Mais les nouveaux joueurs devront quand même associer leur numéro de téléphone. Donc, l'immense majorité n'aura pas besoin de cette fonctionnalité. Tu parlais de cross-platform aussi ?
Oui, il y a des problèmes. Enfin, tu sais, maintenant, on va pouvoir merge donc, notre compte de console avec PC. Ça aussi, ça pose problème. Donc, voilà. Il y a le DDoS, mais il y a aussi beaucoup de problèmes en interne. Et je sais qu'ils bossent vachement dessus, hein. Mais il n'y a pas que le DDoS, même si c'est une excuse totalement valable aussi d'un certain côté.
C'est sûr. Et du coup, il y a eu beaucoup de problèmes pour se connecter. Le soir, nous, on était sur le Discord, tout contents, tous ensemble. Et à vrai dire, tout le monde sur le Discord a pu se connecter, sauf moi. J'étais dégoûté. mais dégoûté de chez dégoûté. Heureusement, je regardais Pocheka en live être dégoûté aussi. Parce
ah non, bah oui, j'allais dire, c'est drôle que tu me dises ça parce que j'avais 4000 viewers et tout le monde pouvait jouer sauf moi alors que j'y joue depuis littéralement 2 mois en privé. C'était n'importe quoi.
C'était rigolo. Mais tu sais, tu m'as fait me sentir moins seul. Je me suis dit, bon, bah ça va, c'est pas que moi alors. Mais du coup, voilà, lancement compliqué. C'est le genre de lancement dont on se souvient, surtout qu'on n'est plus en 2012 et aujourd'hui, il y a beaucoup de gros jeux qui se lancent et qui réussissent à gérer leur lancement, même des free-to-play avec énormément de connexions. Donc, c'est quand même un black eye on the face of Blizzard. En dehors des heures de rush, ça a l'air quand même de bien fonctionner. Moi, j'ai pu jouer quand même plusieurs heures sans trop de soucis pendant la journée. Donc voilà, Blizzard est lancé. Qu'est-ce que c'est Blizzard, Overwatch 2 est lancé, mais peut-être que certains d'entre vous ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est que tout ce bordel entre Overwatch 2 et Overwatch 1. Overwatch 2, en fait... alors, pour tout expliquer, il faut revenir au début. Overwatch 1 a été lancé en 2016. Énorme succès, vous connaissez, je ne vais pas refaire l'histoire. C'était l'un des jeux les plus joués de cette période. Pendant 3 ans, il a vraiment dominé la place publique et en plus influencé énormément l'industrie, puisque tout ce qui est hero shooter, par exemple Apex, Apex Legends, s'il n'y a pas Overwatch, je crois qu'il n'y a pas Apex Legends. Donc, une énorme influence sur son industrie. Sauf qu'à partir de 2019, on va dire, le jeu commence à stagner beaucoup, plus de mises à jour, et ils annoncent Overwatch 2 qui serait le PVP un petit peu évolué, mais surtout un ajout d'un mode PVE qui permettrait de jouer très longtemps avec des missions qu'on peut refaire, des choses, des personnages à faire évoluer, etc. etc. Et de 2019 à 2022, je résume, c'est le calme plat. Overwatch 1 se meurt d'absence de développement et de mise à jour, et pas de signe d'Overwatch 2. Donc les gens commencent à vraiment en avoir marre, commencent à paniquer. Clairement, fin 2021, les gens au sein de Blizzard se disent « Oui, non, mais c'est pas possible. » En fait, le développement de la partie PvE nous prend énormément de temps. Toute l'équipe d'Overwatch 1 était switchée sur la partie PVE. Et comme je le disais à l'époque, le problème d'un PVE, ce n'est pas designer le jeu lui-même, c'est designer les motivations aux joueurs pour rester longtemps. Et généralement, c'est du loot, des trucs comme ça. Enfin, vraiment, ouais. Faire un mode PVE pour Overwatch, ce n'est pas juste faire un mode PVE, c'est réimaginer un jeu complet, j'en suis convaincu. Alors, ils continuent à travailler dessus, mais fin 2021, ils se disent « Bon, on ne peut pas laisser le jeu PVP mourir, donc on va développer une mise à jour pour Overwatch 1, mode PVP, pour le remettre au goût du jour aujourd'hui. Et on va l'appeler Overwatch 2, on va le faire un Early Access fin 2022 et on va le lancer parce que ça suffit. Et du coup, cet Early Access, parce qu'en pratique c'est une Early Access d'Overwatch 2, ne contient que ce mode PVP. Le mode PVE arrivera arrivera en 2023 à un moment. Donc en fait, en pratique, ce Overwatch 2 qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment Overwatch 1 s'ils avaient continué à le mettre à jour et à le développer. Finalement. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens voient Overwatch 2 et se disent « Bon, bah, c'est un petit peu la même chose que, c'est un petit peu la même chose que Overwatch 1. » Oui, c'est vrai, parce que, bah, c'est parce que concrètement, c'est ça. C'est un petit peu ça. Qu'est-ce qui change concrètement dans le jeu entre Overwatch 1 et Overwatch 2? Moi, j'y prends beaucoup plus de plaisir, mais peut-être que je vais me tourner vers Pocheka, qui est un spécialiste de la chose. qu'est-ce qui fait que Overwatch 2 est plus sympa que Overwatch 1, peut-être, de ton point de vue?
Alors, au niveau du PVP, pour moi, ce sera très clairement qu'on passe d'un jeu à 6 contre 6, 2 tanks, 2 DPS, donc 2 personnes qui font des dégâts et 2 healers, à un jeu en 5 contre 5, pour la bonne, la bonne raison, en fait, que maintenant, on est sur un jeu qui est beaucoup plus deathmatch. C'est-à-dire qu'on est, sur un jeu qui est beaucoup moins stratégique, qui demande beaucoup moins de mise en place de stratégie, et qui est plus rapide. Donc, ça encourage vraiment beaucoup plus les joueurs, on va dire casual, qui jouent de temps en temps, à juste lancer quelques parties, à s'amuser, et j'ai envie de dire un peu à se tabasser, à se taper sur la tronche, et à passer un bon moment. On est vraiment sur un jeu qui correspond, pour moi, beaucoup plus à son public. Alors, il y a eu beaucoup de protestations, parce que oui, ça enlève de la stratégie, de la profondeur stratégique, d'avoir un joueur en moins, une capacité en moins, des combos en moins, mais passer en 5v5 et en free-to-play, je pense que c'est un très bon move parce qu'on s'amuse en fait, on lance le jeu, c'est beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup plus rapide et on peut faire plus la différence soi-même. Donc on est sur un jeu plus simple mais qui correspond d'après moi beaucoup plus à son public et ça c'est la grosse force.
C'est vrai que sur ce point, moi je me rendais pas compte parce que je suis pas un grand spécialiste des FPS, mais je me rendais pas compte à quel point au cours des 3 premières années du jeu Overwatch 1, le style des parties avait changé parce qu'on avait tellement de capacités qui bloquaient l'action avec des tanks qui allaient avoir des boucliers et des choses qui avaient établir une ligne de front. On avait du coup 4 tanks avec souvent 4 boucliers ou 4 choses qui allaient stopper l'action. Au lancement du jeu, il n'y en avait pas autant, des tanks qui allaient avoir des boucliers, donc c'était plus dynamique là. Au bout de 3 ans, quand j'ai relancé Overwatch 1, après avoir joué à la bêta d'Overwatch 2, je me suis rendu compte, mais on passe la moitié des matchs à juste attendre que les boucliers soient tombés, quoi.
C'est ça, c'est exactement ça. On tire sur les boucliers, j'exagère un peu, mais c'est le premier qui pète les défenses adverses, qui gagne le teamfight. Bon, alors j'exagère forcément, mais oui, on a vraiment cette sensation de... Bon, on se regarde en face, on tire, et puis on voit comment ça se passe. Alors que là, on peut passer à gauche, à droite. Enfin voilà, on a beaucoup plus de mobilité et c'est moins frustrant, en fait, totalement.
Ouais. Beaucoup plus fun à jouer. Ça, je crois que c'est le... Alors, l'effet dont parlaient les pros et les gens comme toi qui connaissent vraiment le haut niveau depuis longtemps et que moi, j'ai constaté en l'essayant, j'ai été vraiment surpris. Donc ça, c'est l'un des... Enfin, le changement principal, tu voulais mentionner d'autres?
Alors, bah, y a forcément le passage où on n'a plus de lootbox et on va parler forcément du Battle Pass quand même, puisque c'est le système de récompense, entre guillemets, d'Overwatch. Une bonne chose, une mauvaise chose. Bonne chose, déjà, il faut le dire, c'est qu'aujourd'hui, tu vas peut-être jouer 5 parties, en gagner 5, 5 parties, en perdre 5, et donc revenir comme si tu n'avais pas joué, tu n'avais pas augmenté de rang. Mais par contre, tu as quand même cette progression où tu vas débloquer des choses, hein, qu'on voit surtout les jeux free-to-play, jeux game as service, quoi. Donc on va quand même avoir ce sentiment de progression et pas juste jouer pour son rang. Donc ça, c'est une très très bonne chose.
Par contre, tu fais progresser ton Battle Pass et c'est vrai que moi, il y a un truc qui m'a marqué et un petit peu surpris aussi, le fait de faire les missions pour pousser le Battle Pass, bah, ça te donne un petit truc à faire. Tu dis oui, ok, bon, j'ai réussi ça, même si j'ai perdu, c'est pas la fin du monde. Et Dieu sait que j'ai beaucoup perdu depuis le lancement.
Ouais, mais non, oui, t'as ce sentiment de progression, puis aussi tu as plein de, entre guillemets, de quêtes différentes à faire pour gagner des points. Un coup, ça va être de faire de la ranked, mais un coup, même si t'es un joueur ranked, ça va te dire, fais des modes de jeu fun, arcade, ça va te faire avancer, et du coup, toi, ça va te faire autre chose que t'aurais pas forcément fait. Donc je trouve que c'est une très très bonne chose. Après, il y a toute la polémique forcément du Battle Pass, parce qu'il y a un héros à débloquer dans le Battle Pass notamment, parce que aussi... Le Battle Pass ne se rembourse pas, et c'est un des trucs, un des sujets les plus abordés, contrairement à du Fortnite, par exemple, notamment, où tu peux le rembourser. Donc voilà, il y a tout ce modèle économique où, d'un côté, Blizzard forcément pousse à l'achat parce que bah, il faut quand même faire rentrer de l'argent, et de l'autre côté, où les joueurs sont en mode « bon, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste ?» Donc ça, c'est quand même un changement important qui est abordé un peu partout.
Bah le personnage qui est inclus dans le Battle Pass, on peut avoir accès, les nouveaux persos seront tous les deux Battle Pass. Chaque saison dure 2 mois environ. Il y aura un nouveau perso toutes les deux saisons, donc tous les 4 mois. Et il sera inclus dans le Battle Pass, débloqué directement si on le paye. Et si on ne le paye pas, on a quand même le track gratuit du Battle Pass, mais il sera accessible au niveau 55. Donc ça prend un moment, certainement, à débloquer. Moi, je dirais au moins 3-4 semaines minimum. Et l'autre aspect que tu évoques, et j'ai fait un petit peu de recherche pour vraiment comprendre comment ça marchait, le standard de l'industrie, et il faut le noter, le remboursement le fait de pouvoir payer un nouveau Battle Pass si on a payé le premier et qu'on finit le Battle Pass du moment, et ben le standard de l'industrie, c'est ça, c'est-à-dire que on va pouvoir se payer un nouveau Battle Pass si on finit le Battle Pass précédent, parce que dans le Battle Pass sont inclus les crédits qui vous permettent de payer un nouveau Battle Pass entre guillemets gratuitement. Blizzard a été beaucoup plus stingy, radin. Non seulement si on fait tout ce qu'on peut, on va avoir la moitié de la somme nécessaire pour payer le Battle Pass suivant, mais en plus de ça, il y a un truc que beaucoup de gens ne notent pas, parce que c'est vrai que ces business models free-to-play sont assez obscurs et assez abscons. Et ben, ils ont un petit trick, une petite astuce pour rendre la chose encore plus difficile, c'est que l'obtention des crédits pour payer le Battle Pass suivant est décorrélée du Battle Pass du moment, complètement. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le Battle Pass qu'on va avoir les crédits, c'est en faisant chaque semaine un certain nombre de missions qui donnent en plus de l'XP pour le Battle Pass. Mais comme elles sont décorrélées et semaine par semaine, si on rate une semaine, bah ce n'est pas comme sur les autres où on peut compléter le Battle Pass plus tard. Bah là, on a raté la semaine.
Saison.
Voilà.
Ouais.
Et du coup, alors qu'il faut faire pendant 2 saisons complètes, chaque semaine vraiment, enfin on peut en rater une à la limite, mais vraiment chaque semaine, toutes les missions pour avoir assez pour récupérer un nouveau Battle Pass, et ben là, si contrairement à Fortnite, on peut arriver à la fin de la saison et bourriner à fond et remplir le Battle Pass quand même, là, c'est juste pas possible. Les semaines que vous ratez, elles sont perdues à jamais. Alors, c'est clairement beaucoup moins généreux que le reste du standard de l'industrie, et la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est pas pour asséner la chose à Blizzard et pour les enterrer, c'est pas ça. C'est que il faut le savoir, il faut comprendre, c'est factuel, il faut savoir de quoi il en retourne. Maintenant, est-ce que c'est juste ou pas juste ? Il faut pas oublier non plus, on a tendance à oublier dans ces conversations, que bah, le jeu entier, quand même, il est accessible gratuitement. Et c'est beaucoup, beaucoup de contenu.
Il y a beaucoup de contenu. Il y a quand même beaucoup de contenu depuis, même si on a eu 2 ans de traversée du désert, il y a quand même énormément de contenu. C'est un jeu qui est très très polish. Le contenu du Battle Pass aussi est quand même assez exceptionnel, parce qu'aujourd'hui, alors je suis obligé de faire la comparaison, mais à la fin du Battle Pass d'Overwatch, en fait, si vous voulez, il y a un skin qu'on appelle mythique, c'est encore au-dessus, qui est personnalisable et ultra détaillé, et il coûte en fait 10€, puisque tu l'as à la fin du Battle Pass sur des jeux comme Apex Legends ou Valorant. Pour avoir un skin d'arme ou un skin légendaire, c'est 100€ ou 50€.
Donc, à ce point-là, voilà. 100€
Sur Apex, c'est 100€ si tu veux l'arme, le skin ou l'arme spéciale, c'est à peu près ça.
D'accord.
Donc par rapport au Battle Pass, ils sont radins. De l'autre côté, il faut garder en tête que même sans payer, vu que tu as des quêtes, tu vas pouvoir le débloquer, même si tu n'achètes pas le premier. Mais oui, ils sont plus radins, mais en termes de contenu, personnellement, je trouve ça quand même beaucoup plus qualitatif. On est sur un jeu Blizzard et Overwatch, quand même, en termes de qualité, le polishing pour moi est quand même exceptionnel. Donc,
Reprends ce que tu disais à l'instant. Tu disais même on peut débloquer les crédits même si on n'a pas payé le Battle Pass. Effectivement, comme c'est décorrélé, si on fait ces missions chaque semaine, on va récupérer les crédits en question pour pouvoir, au bout de 2 mois, se payer un Battle Pass. Tu fais bien de le signaler. Ouais. Bon, donc voilà pour ce qu'est Overwatch 2. On a parlé un petit peu de technique et de microtransactions. Au final, le jeu, est-ce qu'il répond à tes attentes en tant que fan d'Overwatch qui était frustré de cette période sans update ?
Tu parles d'un créateur de contenu qui fait principalement de la news, donc forcément que quand il y a de la nouveauté, je ne vais pas te dire je suis triste. Genre, je suis très très content. Alors déjà, il y a un engouement, mais moi surtout cette page, parce qu'en plus on, là on parle de qu'est-ce qu'est techniquement Overwatch 2. Il faut dire aussi que Overwatch 2, c'est une page qui se tourne où, ok, bon, on arrête le modèle d'Overwatch 1 et maintenant on reprend sur un autre modèle qui n'était pas la promesse de départ, hein, certes, mais qui va avoir du contenu. Et on va avoir du contenu tout le temps et on ne va plus être dans cette situation de stagnation qu'on a eu des années. Et c'est ça qui est vraiment le plus rassurant. Après, en toute sincérité, si tu me dis « Est-ce que tu en es content d'Overwatch 2 ?» Je trouve ça très fun, c'est très bien. Bon, faut pas déconner, on a eu 3 cartes ou 4 cartes, un nouveau mode, dont un qui a disparu en plus, et 3 héros. Donc, est-ce que ça rattrape le retard ? Non, c'est pas le cas. Mais ce qui est vraiment important, c'est ce passage où on dit, en fait, c'est clairement une promesse de « Ok, on a merdé hein, ». Ils nous l'ont dit carrément en direct, en live, en personne. Ils nous ont dit carrément « Bon, c'était pas ouf cette idée ». Et là, voilà, c'est un renouveau. Et puis, il y a le PVE qui arrive. Donc, c'est vraiment ce nouvel élan qui est plus rassurant qu'autre chose et qui promet de très bonnes choses pour le futur.
Moi, j'avoue que j'ai retrouvé le plaisir d'Overwatch que j'avais un petit peu perdu ces dernières années. Et ces changements qu'ils ont faits ont montré à quel point le plan pour le développement d'Overwatch 1 était hasardeux. Parce que si chaque personnage était intéressant à jouer, la dynamique des matchs s'était vraiment dégradée ces dernières années. Mmh. Et là, je retrouve... Alors, il y a aussi beaucoup de nouveaux qui débarquent et du coup, c'est un petit peu n'importe quoi dans les parties. Parfois, c'est un petit peu frustrant. Mais je retrouve vraiment le fun assez incomparable de ce jeu à son lancement et ses premières années. Et ça, c'est la promesse qui, à mon sens, est réussie et qui est importante. D'autant plus que comme ils ont mis à jour le business model du jeu finalement et qu'on a cross-save, cross-play, free-to-play, ça veut dire que ouais. N'importe qui, n'importe où, même, il est même sur Switch le jeu. Donc, vraiment. Ouais,
on peut jouer avec n'importe qui, quoi. C'est ça qui est bien.
C'est
quoi.
Ça. Et le fun du jeu est revenu, quoi. Donc, ouais. Moi, maintenant, je suis de retour un petit peu à ce que j'avais il y a quelques années. C'est que, bon, bah, quand j'ai une petite pause ou quand... Et en plus, tu fais des parties qui durent 10 minutes. Tu peux jouer 2 heures, mais si tu as 10 minutes ou 20 minutes, tu peux te faire 2 parties, tu as ton fun. Et c'était comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Ils ont retrouvé ça. Est-ce que... Ça suffira face aux concurrents comme Apex, Fortnite et tout ça. Le panorama du jeu vidéo n'est plus le même, mais le jeu est très solide, quoi. Et avec, enfin, comme on disait, tu es obligé de payer si tu veux des petits bonus. C'est plus comme à l'époque des lootbox où tu pouvais, je sais qu'on les critiquait beaucoup, mais mine de rien, moi, je n'ai jamais payé un seul sou et j'avais quasiment tous les exclus,
C'est un avantage et un problème aussi, tu vois. Parce que les lootbox, c'est très sympa, mais si tout le monde peut avoir tous les skins gratuitement, ton skin n'a plus de saveur. Enfin, tu vois, c'est quand même dans le côté un petit peu exclusif. Alors moi, je pense comme ça, en tout cas, que j'apprécie un skin. Je l'apprécie parce qu'il est beau, mais je l'apprécie aussi parce que bah, je suis un des seuls à l'avoir. Ou en tout cas, on est peu. Et que quand quelqu'un le voit, il se dit « Ah ouais, quand même, c'est cool. »
T'as payé 10 euros, pas mal.
Mais moi, j'ai déjà foutu 100 balles dans le jeu. Hein, ah dans ouais. le jeu là.
Mais tu
moi,
vois,
je
ça...
suis, moi, je suis vendu. Moi.
Je peux le comprendre. Et puis, comme on disait, bah, payer un petit peu de sous pour un jeu auquel tu joues qui est bien foutu, ça ne me choque pas plus que ça. Mais je t'avoue que moi, en tant que... J'avais toujours 20 000, 30 000 crédits qui traînaient, donc je pouvais m'acheter ce que je voulais. Là, avec une skin qui coûte 5-10 balles, ça fait bizarre, quoi, alors que je les avais gratuitement avant. Ouais. Mais bon, bref. Au final, moi, je suis quand même très, très, très content. Et je pense que c'était le... Je suis surpris, en fait, de constater à quel point, maintenant que j'ai vraiment pu le tester, à quel point on peut ergoter sur les détails de oh, ils devraient être un petit peu plus généreux là-dessus, un petit peu moins là-dessus, ok, mais à quel point c'était la bonne décision pour le jeu, quoi. Et j'en viens même à me demander si le départ de Jeff Kaplan n'était pas un petit peu dû à ça. Ils ont dit, mais écoute, Jeff, désolé, ça a merdé pendant 3 ans. Maintenant, il faut faire les choses autrement. Donc, peut-être qu'il a pris le...
Alors, il y a clairement un changement par rapport au départ de Jeff. Hein. Il y a clairement une raison et clairement, ce revirement, ça a un impact par rapport à ça. Vous entendrez parler de Jeff d'ici quelques temps.
J'ai très, très hâte de voir ce qu'il fait.
Vous verrez. Oui. Petit teasing. Mais oui, non, clairement, le départ de Jeff a totalement quelque chose à voir par rapport à ça. Pour Jeff, de toute façon, c'était... le 1, on arrête, on se concentre sur le PvE, c'est entre guillemets, oui. À cause de lui, même si c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique et que j'adore, et qui est très passionné, on n'a pas eu de contenu pendant tout ce temps-là. Donc ouais, c'est un revirement. En plus, là, il y a le rachat par Microsoft, etc. On va voir si que ça va changer en plus. Mais je suis plutôt, ouais, je suis plutôt confiant. Comme tu dis, le core gameplay, le jeu en lui-même est exceptionnel. On peut chipoter sur 2-3 trucs. Après, ça a fait revenir beaucoup de personnes parce qu'il ne faut pas l'oublier. C'est un jeu Blizzard et c'est un jeu Blizzard exceptionnel. Et en général, les jeux Blizzard, bah, quand on les aime tout le temps, même si on n'y joue plus pendant 3-4 ans. Donc revoir cette hype et revoir beaucoup de personnes, être content d'y jouer quand ils peuvent, vu qu'il y a des problèmes de serveur, ça fait plaisir. Mais surtout, vraiment, moi je mets un point d'honneur sur le PvE, puisque Overwatch, c'est le premier jeu PvP, en fait, si tu veux, où des joueurs qui n'avaient jamais joué à un FPS, pardon, bah, sont venus, en fait. Parce que Overwatch, ça parle à tous les joueurs, si tu sais viser, si tu sais pas viser, si tu veux soigner et supporter, ou si tu veux faire des dégâts. C'est un jeu qui, en fait, encourage beaucoup de personnes qui n'ont pas, ce profil de joueur compétitif à venir. Et le PvE va rajouter encore une surcouche de « tu n'aimes pas jouer contre d'autres joueurs en mode compétitif, bah viens t'éclater, même si tu ne sais pas viser, même si tu n'as jamais joué à un FPS. » En mode PvE, tu n'as aucun défi, entre guillemets, parce que c'est contre... Enfin, tu n'as aucun stress parce que c'est contre une IA. Et pour moi, ouais, c'est vraiment ça qui va faire, je pense, renaître, ou en tout cas faire revenir un nombre... et venir un nombre énorme de personnes sur le jeu.
Alors, je ne sais pas si tu as vu des choses sur le PvE. Je sais qu'il y a eu des créateurs summit et beaucoup de gens qui teasaient. Je ne vais même pas te poser la question, mais c'est vrai que l'opportunité est importante. Mais là où ça me, j'ai quand même un point d'interrogation, c'est que c'est vraiment le développement d'un jeu complet, quoi, le PvE. C'est pas juste un petit add-on, parce que pour motiver les gens à jouer des dizaines et des centaines d'heures, tu peux pas juste dire bon bah vous aurez une skin, quoi. Il faut, enfin, ouais, pardon.
C'est la grande. Non, mais t'as raison. C'est l'énorme question, le PvE, parce que le PvE, à la fois il faut que ce soit accessible, comme je disais, pour tout le monde. À la fois, il faut qu'il y ait un défi énorme pour les meilleurs joueurs. À la fois, et c'est là où tout va se jouer, il faut la rejouabilité, comme tu le disais. S'il n'y a pas de rejouabilité, si je n'ai pas une carotte qui va me dire « t'as des récompenses », etc. Alors le loot, pour moi, c'est la meilleure des récompenses. Ça m'étonnerait qu'on en ait, et c'est très dommage parce que ça serait incroyable, j'aurais adoré. Mais oui, il faut cette rejouabilité. Alors est-ce que ce sera sous forme comme sur World of Warcraft de donjons mythiques où tu as, des suffixes, des affixes, etc. où bah, un coup les ennemis vont exploser, un coup, etc. et ça changera chaque semaine. On verra, mais oui, il faut qu'il y ait ce mode campagne et il faut qu'il y ait cet attrait à rejouer encore et encore. Mais le PvE, je peux le dire très clairement, moi j'en sais pas grand chose encore. Hein. On nous a pas, même en privé, etc. On était à Los Angeles, ils nous ont pas parlé du PvE. D'accord. Donc on a vu plein de choses, mais le PvE c'est miette.
La question que je me pose, et désolé, je surgis comme ça dans la conversation, c'est que ce PvE, ce sera pas, on est d'accord, un scénario. Enfin, ce sera pas une campagne scénarisée avec des cinématiques. Alors, et tout, un truc linéaire.
Pardon.
Non, mais tu as les deux. Tu as une campagne totalement scénarisée où justement, d'accord, ils ont refait là tout le moteur physique, etc. D'Overwatch avec le 2 actuellement pour pouvoir faire des cinématiques in-game. Alors, ce sera pas de la même qualité forcément que les cinématiques Blizzard qu'on connaît, notamment sur Overwatch ou Diablo. Mais par contre, je les ai vus, ça rend quand même très très bien. Et donc oui, tu vas avoir une grande campagne scénarisée, alors je sais pas, peut-être 15-20 heures, hein, grand max, je suppose. Mais après, oui, t'auras tous, à côté de ça, t'auras le côté rejouabilité, où tu vas pouvoir, d'accord, level up ton perso, arbre de talent comme le Diablo, WoW, etc. Mais par contre, ouais, la question c'est bah, la rejouabilité, la carotte, le loot, où est-ce qu'il est, on verra.
C'est vraiment la grande question. Ils ont dit, Aaron Keller, qui est le nouveau directeur du jeu, qui est l'un des derniers vétérans de l'équipe, a dit on veut une grande campagne AAA et en plus de ça, de la rejouabilité pour des centaines d'heures. Et c'est là vraiment parce que les joueurs ont beau dire « Ah ben non, nous on joue pour le fun, on joue... » En PvE, tu joues pas pour le fun, nous fais pas. Tu joues pour le fun s'il y a la carotte au bout. Le loot ou des talents ou j'en sais rien, mais... C'est la seule motivation que les joueurs acceptent, malgré tout ce qu'on peut se raconter dans les fantasmes de communauté. Et ça, je ne sais pas comment ils vont résoudre ce problème sur Overwatch. Mais l'idée, enfin, ce qu'ils décrivent, c'est presque une sorte de Diablo, quoi, un petit peu, où tu peux jouer...
Je sais pas. J'avais joué au PvE, moi, en 2019, c'est pour te dire.
Oui, quand ils l'ont annoncé, j'étais à la BlizzCon aussi, ouais.
Bah oui, et donc ça a déjà, à mon avis, énormément évolué, ouais. C'était très intéressant, mais oui, c'est vraiment cette question de défi qui est intéressante, et aussi c'est vraiment, je pense que, alors ils l'ont déjà fait, par exemple avec Heroes of the Storm, quand ils avaient dit, si tu joues à Heroes of the Storm 10 parties, tu gagnes un skin sur Overwatch, et est-ce qu'il y aura cette passerelle entre le PvP et le PvE pour motiver, pour faire rejouer aussi, ça peut être intéressant, Pour qu'il y ait un peu une fusion de ces deux communautés. Donc, je sais pas. Pour l'instant, ouais. C'est une grande question. La campagne, j'ai aucune inquiétude. C'est Blizzard. À chaque fois qu'ils ont sorti un nouveau jeu, alors, vous avez, certains vont me parler de Diablo 3, de World of Warcraft Reforged, c'est autre chose, mais à chaque fois qu'ils ont sorti un nouveau jeu, ça a toujours été un nouveau jeu avec énormément de choses et globalement extrêmement qualitatif. Donc, j'ai pas peur pour ça. Mais ouais, la rejouabilité, ça, c'est ma grande question.
On verra ce que ça donne. C'est quand même un petit peu ironique parce que Overwatch est sorti des cendres de Titan, qui était un gros jeu PVE, un MMO. Et du coup, ils ont sorti Overwatch et ils sont tout de suite mis à refaire, j'ai vu ces commentaires dans la communauté, tout de suite mis à refaire un gros jeu PVE qui a refait merder le truc. Donc bon, à voir. Mais il y a des gens qui disent « Oh bah ça sortira pas avant 2023-2024 ». C'est possible. Mais il faut pas oublier que de 2020, même 2019 à 2021... Ils ont bossé uniquement sur ce PVE. 2018, et toute l'équipe, 2018, et toute l'équipe était sur ce mode PVE. Donc, il y a déjà beaucoup de boulot qui a été fait. Bref.
Et l'équipe a été doublée, en plus.
Ouais.
L'équipe a été doublée à la fois pour s'occuper du Battle Pass et du nouveau contenu sur le PVP, et aussi du PVE dans l'autre coin. Donc, à voir. Mais oui, ne me reparle plus jamais de Project Titan parce que je vais pleurer. Et me parle pas non plus du FPS sur StarCraft qu'ils avaient prévu à l'époque StarCraft et qui a été annulé. Je vais pleurer aussi.
Non, écoute, on va éviter ça. On va juste se dire que aujourd'hui, Overwatch 2, donc cet Early Access PVP, est quand même très cool et remet Overwatch au niveau. Je dirais quasiment de sa sortie. Je pense que c'est... Il y a aussi des controverses sur la quantité qu'il faut jouer pour avoir accès à tous les persos quand on est un nouveau joueur, si on n'avait jamais joué à Overwatch 1. Moi, ça ne me gêne pas parce que c'est vrai qu'il faut apprendre le jeu, il y a beaucoup de choses et les persos sont complexes. Donc voilà, ça ne me gêne pas plus que ça. Mais lancer le jeu, il est gratuit, il est dispo sur toutes les consoles, littéralement toutes les consoles. Il n'y a que sur mobile qu'il n'est pas dispo, ça arrivera peut-être un jour.
Il y a de grosses rumeurs très fortes depuis quelques années. Hein.
On sait qu'ils développent des trucs sur mobile pour toute leur franchise. Donc a priori, toute leur franchise inclut Overwatch. Donc à voir. Mais oui, il est dispo partout, super fun. Je pense qu'il y a de quoi s'amuser, vous pouvez vous lancer. JK, est-ce qu'on t'a convaincu ?
En fait, quand j'ai compris que c'était gratuit, je me suis dit, bon, autant rien d'essayer, tu vois, déjà. non, mais en fait, bon, déjà, moi, je suis pas un joueur très compétitif, donc à la limite, le solo pourrait limite plus m'attirer que le mode en ligne quoi. Après moi j'ai un vrai problème avec Overwatch, mais là je pense que là Blizzard ne pourra rien y faire, c'est juste l'univers en fait. Je trouve je suis vraiment pas fan de la DA, de l'univers, du style graphique, de ça m'attire pas, c'est pas beaucoup, tu vois.
Ah, si t'aimes pas la DA, là, c'est sûr que...
Voilà, c'est ça. Et c'est ça le problème. C'est que, après, le système de jeu sont très cool. J'y ai quand même un peu joué et tout. C'est très, très sympa à jouer. Mais juste que, voilà, pour moi, ça manque de... Soit de réalisme. Tu vois, moi, je suis Team Call of Duty. Bon, même si le réalisme Call of Duty, c'est pas déconner, mais...
Oh, mon cœur.
je suis désolé. Non, je parle plus en termes de visuel, tu vois. Soit un truc hyper... je sais pas, moi, un truc gore ou un truc un peu d'horreur, tu vois. Bon, ça n'a rien à voir. On est très, très loin de... C'est pour ça que, par exemple, j'attends énormément Diablo 4, parce que Diablo 4 sera beaucoup plus dans mes délires un peu plus dark fantasy, etc.
Il y a Diablo 4, Tide aussi qui sort bientôt, là.
Il y a quoi ?
Dark Tide.
Mortel, j'y ai joué à Gamescom, pour le coup, à Dark Tide, et très très cool, très très cool, Dark Tide.
Bon, écoute.
Donc voilà, mais encore une fois, c'est gratuit, franchement. Je vais me l'installer. Là, en plus, je suis en vacances. Je vais l'installer.
Je vais faire une petite partie, on verra. Je joue juste pas entre genre 6h et 10h parce que c'est même pas la peine.
Ouais.
On va voir comment ça se passe ce soir. Mais les deux premiers jours, aux heures de pointe, c'était très compliqué. Écoutez, espérons que les choses se passent mieux à l'avenir. Moi, je l'ai même installé sur mes consoles, donc c'est vous dire. tout le monde ne peut pas avoir bon goût et aimer Overwatch. Il y a des gens qui aiment Return to Monkey Island aussi. JK, est-ce que
ça suffit, Patrick, ce Monkey Island bashing qui est honteux.
J'avoue.
Coup, là, je vais prendre 45 minutes pour en parler. Hein, je te préviens tout de suite. Et il y aura que moi qui parlera. Non, je plaisante. Mais tu veux que je parle de Return to Monkey Island comme ça là?
Si tu veux bien, tu nous as quand même, rabattu les oreilles avec Monkey Island pendant des mois. Sais que tu sais, c'était un point où j'étais juste tellement content pour toi quand il a été annoncé ce jeu, tellement tu aimes la série et qu'il soit sorti. Je me suis dit, mais C'est un truc, je sens ton plaisir et ta satisfaction d'ici, en Finlande, et je suis super content pour toi, donc j'ai vraiment hâte de savoir ce que tu en as pensé et de me baigner dans l'aura de ta joie, en fait. C'est ça que je
veux dire.
D'accord. Non, mais en vrai, j'ai pas été déçu déjà, je tiens à le dire tout de suite, c'est pas par le jeu, même si j'ai eu un rapport un peu compliqué dans mes parce que j'ai un rapport tellement particulier avec les deux premiers surtout qu'il y avait des trucs qui me gênaient un petit peu le fait qu'ils recyclent en fait je spoil, je vais évidemment rien spoiler hein, mais ce qu'on savait déjà c'est que il y a en tout cas la première partie du jeu ils recyclent beaucoup d'environnement du premier épisode. On retourne de Sonic de Mêlée. Le jeu s'appelle Return to Monkey Island littéralement. Donc voilà, on se doute. Voilà. Ça me gênait un petit peu parce que j'avais l'impression de rejouer un peu au même jeu que j'avais joué il y a 30 ans. Et bon, voilà. Après, il y a plein d'autres choses excellentes dans le jeu en termes d'histoire, en termes d'univers, etc., qui sont vraiment très cool. Après. Je vais pas le survendre, ça reste un point and click à l'ancienne avec quand même beaucoup de features modernes qui font que c'est un jeu d'aventure dans lequel t'es très rarement frustré parce que on peut se rappeler si vous avez joué vous à l'époque à ces jeux-là, c'était des jeux qui pouvaient être très frustrants quand tu savais pas quoi faire et que t'étais bloqué et que t'essayais de faire n'importe quoi pour que ça passe au bout d'un moment, etc. Là, il y a pas ça parce que déjà les énigmes sont globalement quand même. Voilà, les énigmes sont quand même globalement assez logiques même s'il y a toujours des trucs un peu débiles mais qui sont quand même toujours compréhensible, on va dire. Et surtout, il y a un système d'aide progressif qui est hyper bien fait, où régulièrement, si on est trop bloqué, on peut avoir de manière progressive des indices dans le jeu qui n'ont aucun impact sur la partie, sur rien du tout, tu vois. Et ça, je trouve ça très bien pour les joueurs qui ont pas envie d'être frustrés. Moi, je l'ai utilisé régulièrement. Il y a aucun problème avec ça, tu vois. Et je trouve ça super qu'ils aient fait ça parce que ils pouvaient pas faire un truc trop à l'ancienne comme avant, parce que là, je pense qu'ils auraient perdu beaucoup de gens, quoi. Après, que dire? Bah, en fait, c'est un jeu qui est vachement intéressant d'un point de vue développement parce que donc il est fait, on l'a redit déjà plein de fois par les créateurs Dave Grossman et Ron Gilbert, donc des deux premiers, et on sent en fait que c'est des gens qui ont grandi, qui ont vieilli, qui ont évolué et leur carrière elle est derrière eux. C'est des gens qui ont, je pense, entre 50 et 60 ans aujourd'hui. Leur carrière elle est plus à la fin de leur carrière qu'au début. Et en fait, le fait de faire Return to Monkey Island, on sent tout au long du jeu qu'il y a une espèce de réflexion très appréciable, très maligne, très subtile sur le temps qui passe et on regarde en arrière sur tout ce qu'on a fait et ce qu'on a fait, ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait et l'espèce de gloire après laquelle on court en fait constamment. C'est incarné par le personnage de Guybrush qui est toujours là, le personnage principal, et qui a vieilli en fait à un moment donné, mais je peux pas spoiler parce que il y a vraiment des belles surprises là-dessus et c'est un jeu, tu vois, c'est un jeu, tu sens de gens qui savent que leur carrière est derrière eux et ça se ressent dans le jeu. C'est difficile d'expliquer plus sans spoiler quoi que ce soit, et puis en vrai ce qui est hyper bien c'est que je pense que c'est un jeu pour tout le monde dans le sens où en termes d'univers c'est super drôle, c'est pas une référence mais des références qui sont pas forcément des coups de coude un peu lourdingues à l'époque actuelle, tu vois. C'est un jeu qui vieillira très bien parce que voilà, ça c'est un humour qui est universel et qui est intemporel et y a une ambiance qui évidemment peut-être plaira pas forcément à tout le monde mais qui est vraiment hyper hyper chouette, agréable. C'est un jeu feel good en fait, c'est un jeu tu te sens très bien en y jouant. Évidemment quand t'as joué de premier c'est encore mieux parce qu'il y a plein de choses que tu comprends, il y a plein de références que tu vas capter, etc. Mais malgré tout, même si tu connais pas les deux premiers, tu peux quand même apprécier le jeu parce que en plus t'as un résumé de tout ce qui s'est passé avant, qui est sympa, qui prend la forme d'une espèce de scrapbook, vous savez, un livre que tout où il y a plein de trucs collés, où Guybrush va commenter ses aventures précédentes, etc. Donc il y a plein de petites choses comme ça très malines qui font que c'est un jeu qui est super agréable pour tout le monde, évidemment avec un niveau supplémentaire de plaisir quand tu connais la série. Donc voilà, c'est enfin moi évidemment enfin j'ai trouvé ça super bien. Ce sera pas mon jeu de l'année, je pense. Ça par contre je préfère le dire tout de suite, mon jeu de l'année, d'accord. Ce sera pas lui. Oui. Mon jeu de l'année, j'en ai parlé il y a quelques temps dans le rendez-vous jeu, mais bon je vous laisserai peut-être le deviner.
On doit beaucoup regarder l'écran.
Voilà, c'est ça, c'est celui-là. celui-là, c'est je vois pas quel autre jeu pourra le dépasser cette année, mais bon, c'est très personnel. Je parle d'Immortality, on va pas faire semblant de faire ça. C'est un truc débile. Voilà, et mais bon, il sera peut-être dans, il sera très clairement dans mon top 3, peut-être dans mon top 5, je sais pas encore, mais voilà, c'est hyper bien. Et voilà, j'ai pas envie de dire beaucoup plus parce qu'en plus, si vous voulez avoir un sujet beaucoup plus approfondi là-dessus, avec Oupi, avec Sylvain de ZQSD, qui est aussi un énorme fan, on a enregistré un podcast spécial d'une heure où on parle que du jeu. Et là par contre, on spoile tout. Donc on analyse le jeu voilà, de fond en comble. Donc évidemment, si vous l'écoutez, c'est mieux d'avoir joué au jeu, ou alors c'est pas grave si vous êtes spoilé. On va sortir ça. Normalement, on sort cette semaine. Donc voilà, ce sera un petit hors série ZQSD spécial Monkey Island et on en parle beaucoup plus en détail.
Magnifique. Super. Bah écoute, voilà. C'est très bien. Je suis content qu'il t'ait plu parce que c'est tellement facile pour des jeux comme ça qui ont un historique aussi fort et des fans aussi fervents. C'est tellement facile de se planter. Et là, ils ont delivered. Donc, même si c'est pas
ouais, du bon, c'est convaincant. Ce que je peux rajouter, c'est que effectivement, il y avait eu cette polémique sur le style graphique qui plaisait pas. Il y a beaucoup de fans parce que tu sais, le style graphique, il est fait par le mec qui a fait Tearaway et qui a bossé chez Media Molecule, qui est un peu particulier. Hein, c'est vrai. Et au final, quand le jeu est sorti, il y a eu une espèce de trucs où tout le monde a oublié ça en fait. Le jeu a extrêmement été bien reçu par la presse, mais aussi par les joueurs. J'ai lu quasiment que des critiques positives et personne n'a gueulé en disant ah, le jeu est moche ou quoi, parce que une fois que tu joues et t'es dedans, les animations et tout l'univers, ça prend sens en fait. Et ça fait plaisir parce que je sais que les créateurs, notamment Ron Gilbert, a été assez affecté par cette espèce de vague de plaintes
de
négativité, voilà, de toxicité, et ça a été très compliqué à gérer pour lui. Et je pense que, bon, j'espère qu'il est plutôt rassuré à ce niveau-là, quoi.
Tu as aussi joué à Domekeeper, c'est ça ?
Oui, tu vois ce que c'est ou pas ?
J'en ai un petit peu entendu parler, mais dis-moi tout.
Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui l'ont testé. Il y a Gamekult qui l'a testé, qui a mis 8 sur 10. Voilà, 8, c'est ça, une très bonne note. Alors ouais, en fait, Domekeeper, c'est un petit jeu, dans le sens... déjà, je crois que ça coûte 13€ ou 10€, je ne sais plus. C'est un jeu qui est fait littéralement par deux personnes, par un couple. Ils ont fait ça à deux. Et c'est un concept très simple, mais qui marche d'une efficacité redoutable. On est échoué sur une planète extraterrestre et on est protégé donc sur une sorte de toute petite base par un dôme. Donc le jeu se joue en 2D. C'est du très beau pixel art, hyper hyper propre. Et on est protégé par un dôme. Et en fait, on doit affronter régulièrement des vagues d'ennemis, d'aliens qui vont attaquer ton dôme, donc dans le but de le détruire. Évidemment, toi, pour te protéger, tu dois creuser. Tu dois creuser le sol. T'es une espèce d'ouvrier ingénieur qui va creuser le sol pour récupérer des ressources. Et avec ces ressources, tu vas améliorer tout un arbre de compétences régulièrement, tout se fait en temps réel. Améliorer tout un arbre de compétences qui va te permettre de survivre le plus longtemps possible, jusqu'à trouver, notamment dans le mode principal, une espèce d'artefact magique qui va te permettre de finir le niveau et de passer au niveau suivant. Et c'est tout.
Quand tu dis de survivre, c'est des passages qui ont l'air presque un petit peu Tower Defense, où tu établis tes défenses.
C'est ça, ouais. Ça pourrait t'assimiler du Tower Defense, dans le sens où tu dois survivre à des vagues d'adversaires, avec un mélange de jeux de survie et de crafting, enfin pas de crafting, mais de récolte de ressources. Et ça fonctionne, ça fonctionne extrêmement bien, parce que c'est à la fois en tout cas en début de partie, c'est à la fois très reposant, parce qu'il y a ce côté on creuse, on récupère des ressources, un truc assez hypnotisant en fait, et ça peut être très stressant quand les vagues commencent à devenir assez vénères et que tu dois absolument trouver de quoi réparer ton dôme, de quoi améliorer ton bouclier, de quoi améliorer la vitesse de ton personnage, etc. Il y a une tonne de trucs à débloquer, à améliorer, sachant que tu peux évidemment pas tout débloquer, pas tout améliorer, donc il faut faire des choix, et le concept marche vraiment du feu de Dieu. C'est très addictif. Il y a en plus, alors pour le moment, ça manque un petit peu de contenu. Peut-être que c'est pas un jeu dans lequel tu vas enchaîner 5 parties d'affilée, tu vois, parce que ça peut être un peu répétitif. Par contre, régulièrement, tu t'en fais une partie, c'est vraiment hyper plaisant. Et il y a beaucoup de contenu qui ont été annoncés par les créateurs, parce que je crois que le jeu marche bien en plus. Des classes de personnages en plus, des types de dopes différents, des armes différentes, etc. Et voilà, et moi franchement c'est un petit coup de cœur ce jeu parce que je pense que c'est typiquement le genre de jeu qui va rester installé longtemps sur mon sur mon Steam Deck, mais
il est pas sur Steam, c'est vrai
qu'on le verrait parfaitement sur Switch, tu vois, parce que ça se joue à la manette et c'est tout à fait le format portable. Peut-être qu'il sortira sur Switch si le succès est suffisant, mais voilà, c'est un jeu qui va être mis à jour régulièrement et moi je le conseille si vous aimez vraiment ce concept de à la fois jeu de survie, à la fois tower defense. Mais alors que moi, tower defense, c'est pas du tout un genre qui me branche en général. Là ça marche bien, et en plus il y a une ambiance, il y a vraiment une sorte de minimalisme dans la réalisation, mais qui est ultra agréable, parce que c'est super joli tout en étant très simple visuellement, et une ambiance en fait, que ce soit visuel et sonore, qui fonctionne bien, qui fait qu'il y a un côté vraiment hypnotisant à jouer à ce jeu, et moi j'aime vraiment bien, c'est vraiment un bon jeu.
Dome Keeper sur Steam, très bien.
Exactement. Et voilà.
Écoutez, je crois qu'on a fait tous les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. J'imagine que toi, tout ton temps, Podcheka, a été passé sur Overwatch 2, hein, enfin, quand tu pouvais.
Oh oui, c'est jouer, stream, faire une vidéo, jouer, stream, enfin, faire une vidéo et dormir, parfois.
Parfois, de temps en temps. Et bah du coup, on va passer à la dernière partie de l'émission, avec le reste des news qu'on va traiter rapidement et dans la détente. On en parlait il y a quelques semaines, le leak de GTA 6 a été revendiqué par une personne qui proposait à Rockstar de négocier pour récupérer ces infos. Et on s'est dit, mais c'est pas très malin de la part de la personne en question, parce que le FBI, écoutez, il se trouve que la police londonienne a arrêté une personne qui, semble-t-il, était à l'origine de ce leak. Donc voilà, ce qu'on a dit, c'est réalisé. Espérons qu'il ne soit pas trop dur avec lui. Ils ne vont pas l'envoyer en prison pendant 15 ans. Comme on le disait, il va peut-être finir par travailler par le FBI, parce qu'il a l'air assez doué, le garçon. Il y a quelques annonces de jeux et semi-rumeurs. D'abord, EA et Omega Force, c'est ça, ont dévoilé un petit peu plus leur Monster Hunter-like. Je vais revenir à tout ça dans une seconde. Toujours chez EA, il y a le nouveau Need for Speed qui va être présenté ce soir, mais il y a déjà un leak. Il semblerait qu'il s'appelle Need for Speed Unbound, et c'est un style un petit peu manga, on a l'impression. Le remake de Dead Space a présenté une première vidéo de gameplay assez longue. Et enfin, alors là, c'est pas EA, mais il y a un nouveau jeu qui a été annoncé par les développeurs de Battlefield qui s'appelle The Finals. Et quand on parlait de Hero Shooter, bah là, encore une fois, un Hero Shooter. Alors, est-ce qu'il y a encore de la place pour différents Hero Shooters ? Là, c'est énormément de destructabilité dans l'environnement. Ça ressemble un petit peu... Bon, c'est un style un peu plus réaliste, genre, je dirais, Apex, on va dire. Mais il y a des morceaux entiers de bâtiments qui s'effondrent. C'est un peu une marotte du jeu vidéo, genre tout est destructible, c'est super. Depuis longtemps, ça n'a jamais vraiment fonctionné, parce que c'est difficile de designer un bon niveau quand la moitié du niveau se casse la gueule. Mais du coup, ça fait pas mal de choses entre le Monster Hunter de EA, le prochain Need for Speed, des images de Dead Space et The Finals. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué tous les deux dans tout ça, des choses que vous avez retenues?
Moi, je dirais The Finals, hein, quand même, hein, principalement, ouais. Parce que j'ai vu beaucoup je suis beaucoup de personnes qui sont sur la scène Battlefield et qui sont très déçus du dernier Battlefield, forcément, hein, comme moi d'ailleurs, mais qui ont dit The Finals, ça a l'air quand même plutôt sympa, est-ce que ça serait pas finalement le Battlefield qu'on aurait voulu, en mode à fond de destruction, ce qui était quand même une marque de fabrique de Battlefield à l'époque, et qui aujourd'hui ne l'est plus vraiment. Donc à voir, je pense que ça peut être très fun. Est-ce que c'est un jeu qui va marcher sur le long terme? Je pense que c'est plus rigolo de tout éclater et de passer à autre chose, donc on verra, mais ouais, ça a l'air vachement intéressant quand même.
C'est vrai que...
Ouais, vas-y. Non, non, je suis en train de regarder les images en même temps, là, et ça a l'air hyper impressionnant, hein, destructibilité, et c'est vrai que moi, bah, tu vois, ma référence dans ce style, c'est Bad Company, notamment oui. le 1, qui vont s'adapter maintenant, hein, mais qui avait un moteur de destruction qui était complètement fou, et si on retrouve un peu ça, et alors, après, effectivement, il faut que ce soit bien designé derrière, quoi, parce que si au final, c'est juste, tu vois, là, vu comme ça, tu dis, ça peut être aussi un jeu de streamer qui a envie de rigoler un coup, et ça ira pas beaucoup plus loin, tu vois. Après, si y a les mecs de Battlefield derrière, bon, je pense qu'il y aura un gunplay qui sera propre. Il y aura, tu vois, il faut qu'il y ait un truc un peu sympa niveau FPS, quoi.
Ouais.
C'est le gros souci de ces jeux-là, c'est effectivement réussir à faire du level design et du game design qui tient la route, où la destructibilité n'est pas juste anecdotique. Ça fait la différence entre un truc qui est sympa pendant quelques semaines et un truc qui peut marcher sur le long terme. On verra. Pardon. on verra ce que ça donne. Moi, je vais juste.
Moi, je voulais juste. Je commentais sur Dead Space.
Bien sûr, vas-y.
Je trouve. Déjà, moi, je l'attends parce que c'est Dead Space, c'est un grand classique. Je trouve que c'est un jeu qui a... Mais à la limite, je me dis, est-ce que vraiment avoir un remake d'un jeu qui, je trouve, se joue encore très bien aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire? Je ne sais pas. Après, de ce qu'on en voit, c'est vrai que ça a vraiment de la gueule, c'est beau. Après, est-ce qu'il ne va pas un peu souffrir la comparaison avec un autre jeu qui sort 2 mois avant, Callisto, c'est Callisto Protocol.
Dead Space arrive le 27 janvier 2023, et Callisto Protocol, c'est quoi? En octobre, enfin c'est ce mois-ci.
C'est début décembre, qui est fait par notamment le créateur à la base du premier Dead Space, qui a l'air d'aller un peu plus loin sur notamment les combats et choses comme ça. Mais je suis hyper content de revoir ce genre revenir un petit peu comme ça sur le devant de la scène, donc l'horreur dans l'espace, ça m'avait un petit peu manqué, quoi.
C'est pile ce que tu demandais il y a 10 minutes, en fait.
Oui. C'est ça, exactement.
Bah écoute, sur les deux, il y en aura bien un qui va te plaire.
Je ferai sans doute les deux, voilà, comme ça, ce sera réglé.
Mais JK, c'est le jeu, attends, qui c'est un peu dans le style de Giger, comment il s'appelle
Scorn.
C'est Scorn.
Scorn, oui, qui doit te plaire pour le coup.
Dans
10 jours, j'y ai joué une heure à la Gamescom. Je suis un peu mitigé sur Scorn, mais bon, c'est pas le sujet. Mais oui, bah, en fait, c'est plus le gameplay qui me botte pas tant que ça. Ça va être ça va être un jeu de puzzle essentiellement, en fait, et d'énigmes. Ouais. C'est quasiment un jeu à la Myst, en fait, et ça risque de vite me saouler, mais bon. Par contre, l'ambiance est géniale,
Eh ben écoute, tu pourras nous en parler la prochaine fois que tu viens nous voir. Quelques mises à jour aussi en série. No Man's Sky, alors c'est presque contractuel, il faut en parler à chaque fois, il arrive à sa mise à jour 4.0 qui refond un petit peu l'expérience de débutant ou de retour vers le jeu. Elle est déployée le 7 octobre, donc demain au moment où on enregistre, et bah, c'est encore une fois Hello Games qui continue à maintenir son jeu. Je crois que je disais il y a 2 ans, bon bah ça y est, là ils sont rachetés vraiment, ils ont tellement ajouté de trucs qu'on leur pardonne leur lancement catastrophique, et ils ont continué. Et j'ai l'impression qu'ils vont jamais s'arrêter. C'est marrant parce que Sean Murray disait, il disait à chaque fois qu'on met des mises à jour, il y a des nouveaux joueurs qui nous rejoignent, et donc cette mise à jour là, elle est pour eux. Le jeu est devenu titanesque et c'est difficile de s'y retrouver. Donc le 7, peut-être que ça sera le moment d'y retourner si vous n'êtes pas déjà pris pour les 12 000 autres jeux qui arrivent en ce moment. Vampire Survivors arrive en 1.0 le 20 octobre. Sortez vos Steam Deck. Je vais vous laisser la parole dans une seconde. World of Warcraft Dragonflight arrive le 29 novembre et il y a des rumeurs sur un remaster de Horizon Zero Dawn. Oui, le jeu qui est sorti il y a 4 ans. Bon, un remaster PS5, ok. Ils veulent le vendre encore un petit peu plus, il n'y a pas de raison de se priver. C'est des rumeurs encore à ce stade. Et un nouveau Silent Hill aurait été enregistré dans l'organisme de classification en Corée. Ça serait Silent Hill The Short Message. Donc voilà, ça fait quelques news. Je vous laisse là aussi me dire s'il y en a une qui vous parle.
Forcément c'est Silent Hill, mais même si j'en ai un peu ras-le-bol des rumeurs sur Silent Hill. Ça fait des années qu'on à chaque fois qu'il y a une conférence d'un éditeur, un machin, ou est-ce qu'il y aura du Silent Hill, et à chaque fois on l'attend et à chaque fois on l'a pas. Ça va finir par arriver, ou peut-être pas. Ça se trouve que Konami il s'en fiche complètement, parce que Silent Hill c'est une licence que j'adore, mais ça a jamais été des énormes succès, tu vois. Donc voilà. J'ai hyper envie, mais en même temps, j'y crois plus trop. Donc voilà, je vais surveiller ça. Et peut-être, ouais, là, le remaster d'Horizon, effectivement, je comprends pas trop. non, mais non, a priori, au mieux, ce sera un truc comme ils ont fait pour The Last of Us quand il avait ressorti sur PS4. Donc, avec du 60 FPS, avec des textures un peu meilleures, mais à ce moment-là, une mise à jour, un patch gratuit aurait été.
Il y a déjà un patch PS5 hein, pour le jeu qui ajoute.
Il y a déjà un patch PS5, donc qu'est-ce qu'ils peuvent rajouter de plus? Alors, à moins qu'ils refassent tout le 1 avec le moteur du 2. Alors, je sais pas si le 1 et le 2 ont des moteurs si différents que ça. Et en plus, visuellement, enfin, je veux dire, là, je suis en train de jouer en ce moment, en plus, au 2, là. C'est un jeu qui est magnifique, mais il n'y a pas un écart monstrueux entre le 1 et le 2, ouais. Tu vois. Donc, j'ai vraiment du mal à comprendre. Si vraiment c'est le cas, j'ai du mal à y. Voilà.
Je me dis, ils ont rendu les textures en HD pour la version PC. Et du coup, ils se sont dit, bon, bah, on va les mettre sur PS5.
On va leur donner.
Ouais, aussi, ouais.
Autant leur filer sur PlayStation. Ouais, je pense que c'est ça.
Et sinon, moi, ouais, juste un mot sur Dragonflight. Enfin, personnellement, je suis un très gros joueur, enfin, ancien très gros joueur de World of Warcraft. Et j'ai abandonné parce que j'ai trouvé que tout se ressemblait, que je jouais plus que 2-3 mois et que j'y trouvais plus d'intérêt. On nous avait promis beaucoup de choses avec Shadowlands, genre la tour de Torghast, pour ceux à qui ça parle, que ça serait un renouveau et tout. Dragonflight, pour moi, c'est. Alors, ça a l'air très sympa, mais je pense qu'on a de plus en plus besoin d'une refonte totale du jeu plutôt que de petits changements par-ci par-là. Donc on verra. Bonne chance à ceux qui vont apprécier, mais moi, je passe mon tour malheureusement.
Moi, j'ai passé mon tour sur les deux dernières extensions. J'ai joué un tout petit peu à BFA, j'ai atteint le niveau max et puis je me suis arrêté. J'ai même pas touché à Shadowlands. Je crois que j'ai même pas lancé le jeu. C'est vraiment pour quelqu'un qui s'est lancé dans le podcast avec un podcast sur World of Warcraft et j'y ai joué pendant quoi, 10 ans. Mais là, une nouvelle classe, nouvelle race et la possibilité de voler, le vol de dragon qui a l'air sympa, je me dis peut-être, en même temps c'est surtout une question de temps, mais je suis intrigué.
C'est des petits changements, voilà.
Ouais, bah oui, mais tu sais, c'est compliqué de refaire complètement le jeu.
Ah oui, non, on est d'accord, mais je crois pas trop, justement, ma réflexion, c'est pas, est-ce qu'il serait pas en mode de dire on fait plus rien pendant 3 ans et on ressort un vrai et un 2, entre guillemets, si je puis dire. Je sais pas, on verra bien.
La suite et la fin, c'est, comme je le disais, un Nintendo Direct qui arrive ce soir pour nous montrer des images du film Super Mario. Donc, ça a surveillé ça. Et puis, au niveau d'Activision Blizzard et de son rachat par Microsoft, la Commission européenne a lancé une enquête et il devrait dire le 8 novembre s'ils poussent l'enquête plus loin ou s'ils donnent leur accord, comme l'avait fait la Commission anglaise il y a quelques semaines. Ils ont poussé l'enquête plus loin, donc on n'a pas encore la réponse. Par contre, l'autorité de concurrence brésilienne a approuvé le rachat, donc au moins ils ont ça dans leur poche. Et Microsoft a lancé carrément un site sur l'acquisition de la boîte. C'est tellement énorme. Il y a eu un site, bon, c'est un sous-site de Microsoft.com quand même, mais c'est marrant parce que c'est vraiment la fête à tout le monde, quoi. C'est vraiment c'est mieux pour les joueurs, c'est mieux pour les créateurs, c'est mieux pour l'industrie. Regardez comment ça va être super. À la limite, ils nous rendent service, quoi. Ils le font pour nous, quoi. Eux, ça les emmerde, mais ils le font, tu vois.
Par contre, j'ai adoré la conclusion de la commission brésilienne qui a dit globalement, Nintendo, ils n'ont pas de licence Activision Blizzard et pourtant, ça ne les empêche pas d'être concurrentiels. Donc, pourquoi ce serait un problème pour Sony? C'était très drôle.
C'était assez marrant, ouais, effectivement. Voilà. Et puis, la dernière chose, c'est le discours de Respawn, Respawn Entertainment, donc développeur notamment de Apex, contre le harcèlement. On sent vraiment que, en tant que société, ils en ont marre et ils disent stop. C'est-à-dire ils ont publié un communiqué officiel sur leur compte Twitter. Ça a commencé à faire un petit peu de bruit depuis quelques semaines, avec la toxicité de la communauté Apex, visiblement, qui influence le bien-être des développeurs et de l'équipe communautaire. En gros, ce qu'ils disent, c'est souvenez-vous que on n'accepte pas la toxicité, on l'accepte pas pour nos développeurs. On a vu une augmentation du harcèlement de notre équipe de développement. Donc à partir de maintenant, en gros, ce qu'ils disent, c'est ça rigole plus. On a zéro tolérance. C'est-à-dire que si vous êtes si on constate qu'un joueur est coupable de ce genre d'attitude, que ça soit en jeu ou en dehors du jeu, évidemment, eh ben, c'est à compte banni et c'est terminé. Donc, c'est pas un discours qui est foncièrement différent de ce qu'on a pu entendre par le passé par rapport au harcèlement, mais j'ai l'impression qu'ils franchissent une étape et que ces gens, maintenant, on s'en fout de vos états d'âme. On s'en fout, peut-être même qu'on va avoir plus de faux positifs, de faux négatifs, peut-être, j'en sais rien, mais ça suffit, c'est pas possible. La santé de nos développeurs est affectée et là, on en a marre. Et je me demande si c'est pas un coup d'électrochoc dont l'industrie a besoin et que peut-être ça pourra pousser
Oui, c'est clair. Enfin, pour moi, c'est ce que devraient faire tous les développeurs, surtout qui travaillent sur des jeux en ligne comme ça. Il faudrait une tolérance zéro sur ces comportements-là. Point barre. Sachant qu'on globalement, enfin, j'ai la naïveté de croire que ça représente quand même une minorité de joueurs. Donc ça aura même pas un impact négatif sur les ventes ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, il faut clairement que. Enfin, je trouve que c'est un message important. Et il faudrait que tout le monde fasse la même chose, quoi.
Surtout que c'est un message qui vient du cœur, là, c'est vraiment un mode ras-le-bol absolu, et donc ça veut dire que derrière ça, dans les équipes, il y a forcément des gens qui ont fait des dépressions ou des trucs comme ça, et qui ont dû le remonter au service RH, parce que là, c'est clairement une réaction instantanée, et j'ai pas envie de dire compulsive, mais quasiment, donc ouais, c'est grave, ça veut dire que c'est quand même assez grave.
Ouais, et je pense qu'effectivement, alors si on met de côté la question des gens qui font une erreur et qui se retrouvent bannis, mais d'une manière générale, oui, il y a une impunité, je pense qu'un sentiment d'impunité un peu partout, et je crois qu'avec quelques gros exemples publics, ça pourrait aider, ou en tout cas l'attitude de zéro tolérance est assez compréhensible, quoi. Et voilà pour les news que je voulais couvrir. Je crois qu'on a fait à peu près tout. Hein. On a eu un épisode bien, bien sympathique, bien dodu. Merci à tous les deux d'avoir été avec moi pour cet épisode. Avant de se quitter, je voudrais évidemment vous demander où on peut vous retrouver. Alors, JK, bah, t'es plus sur JVcom. Est-ce que tu es quelque part sur Internet ?
Est-ce que tu es quelque part ?
Oui, bah, je continue à faire ZQSD, bien sûr. Hein, je continue les podcasts jeux vidéo, ça, il n'y a aucun problème. Je vous l'ai déjà dit, hein, cette semaine, normalement, un spécial Monkey Island sort que j'ai fait avec Sylvain, hein, avec Oupi. Et puis sur Twitter, hein, Twitter JKLoré, @JKLoré, comme d'habitude.
Vous pouvez aller le suivre pour avoir des nouvelles de sa nouvelle vie dans combien de temps, quelques jours, quelque chose comme ça.
Bah, lundi prochain, lundi je commence, ça va.
Bon courage du coup.
Ouais. Ouais, oui.
Bah, merci. Merci.
Et du coup, Pocheka, toi, où peut-on avoir des nouvelles de ta vie qui est renouvelée en fait avec le retour
sur
d'Overwatch.
Twitter, bien entendu. Mais si vous êtes intéressé justement, on en parlait par Overwatch 2, et bah, sur YouTube, si vous voulez des guides, des news. Et sinon, sur Twitch, eh bien, j'ai envie de dire dans une heure ou deux, si vous voulez, pour voir ce que ça donne, puisque je lancerai un live. Et merci pour l'invitation, en tout cas, Patrick.
Merci, merci à toi d'avoir été là. Une heure ou deux, il sera peut-être... Enfin, on est en milieu d'après-midi. Est-ce que ça va encore tout exploser ? T'as réussi à streamer quand même un petit peu
Tais-toi. Oui, j'ai réussi hier. J'ai réussi à jouer 5 heures et après, j'ai abandonné. Au bout de 5 heures, je me suis dit, bon, tant pis, c'est la soirée, ça recommence. Ouais. J'ai préféré laisser tomber pour être en pleine forme aujourd'hui.
Très bien, eh bien écoute, on suivra ça. Pour ma part, c'est aussi NotePatrick partout, NotePatrick.com. Vous pouvez aussi retrouver tout ce que je fais dans les notes de l'émission. Il y a le Discord où on s'amuse beaucoup, on se console quand on n'arrive pas à se connecter à Overwatch 2. Si vous voulez des conseils, par exemple, on a un thread sur Discord où on parle d'Overwatch 2 et les gens seront tout à fait prêts à vous aider à démarrer si vous voulez vous lancer. On a aussi le Twitch, hein, comme on le disait, tous les jeudi midi, on est là sur Twitch en live. J'espère que je pourrai faire la semaine prochaine, je crois. Normalement, ça devrait être bon, on verra. Et puis, le Patreon, patreon.com/rdvjeux. Vous savez que c'est le moyen de soutenir l'émission. Vous pouvez choisir la somme que vous attribuez à chaque épisode. Est-ce que vous pensez que cette heure et demie de discussion sympathique, ça vaut quoi ? Un café, un Mars, un sandwich, par exemple ? Eh bien, vous décidez et vous pouvez soutenir comme ça super facilement. Un grand, grand merci à vous tous qui prenez cette initiative. Si l'émission vous plaît depuis, allez, on va dire, si vous écoutez depuis un an, peut-être posez-vous la question. Je ne dis pas faites-le, ce n'est pas obligatoire. Faites ce que vous voulez. Déjà, je suis content que vous écoutiez. Mais c'est comme le quoi, on va dire comme le Battle Pass, comme le Battle Pass Overwatch 2. Vous pouvez choisir si vous le voulez et vous avez des cosmétiques incroyables comme des bonus, des timecodes dans les émissions, les aftershows. J'ai encore ma voix, donc peut-être qu'on va faire un aftershow pour parler, je sais pas, de différentes choses, peut-être d'Overwatch 2 avec les auditeurs qui le souhaiteront. Je vous fais de gros gros bisous et on se retrouve du coup dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
Salut.
Salut.